VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Abidjan, 14h à Libreville, bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes en Afrique. Les États-Unis et le Niger sont parvenus à un accord permettant à Washington d'utiliser des drones armés contre les groupes de djihadistes en territoire nigérien. Jusqu'ici, les États-Unis n'ont effectué de raids aériens en Afrique que contre des djihadistes opérant en Libye et en Somalie. Selon des officiels américains, les drones basés au Niger élargiront les capacités militaires contre les extrémistes d'Afrique de l'Ouest, à savoir les combattants de Boko Haram, d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et du groupe État islamique. Le Niger va bientôt se doter de normes pour encadrer la pratique de la religion musulmane dans le pays en vue de prévenir la radicalisation et l'extrémisme religieux violent. Un forum s'est tenu à cet effet cette semaine à Niamey, compte rendu de notre correspondant sur place, Abdul Razak Idrissa.
Les principales recommandations du forum sont allées dans le sens de la prise en compte des expériences des pays comme le Tchad et le Sénégal, invités pour parler de la manière dont ils gèrent ces questions à leur niveau. Ismaël Ndiaye du Sénégal et Adoum Abdramane venu du Tchad.
Au Tchad, nous avons des règlements qui sont en vigueur qui cadrent un peu la construction de mosquées de vendredi. Par exemple, c'est le secrétaire général du ministère de l'Intérieur qui donne mandat au Conseil supérieur des affaires islamiques pour que ils puissent étudier le terrain. Est-ce que là où on doit construire la mosquée, ce n'est pas sur un terrain litigieux? Et on a quand même des règlements qui encadrent la construction de mosquées. Avant, c'est comme il y avait une anarchie, chacun vient et on s'apprêche. Mais maintenant, d'abord, il est interdit qu'on fasse les prêches dans les lieux publics. La deuxième chose, pour sortir aller prêcher, il faut absolument obtenir une autorisation de prêche du ministère de l'Intérieur. Sinon, vous serez arrêté et traduit en Djamena.
L'expérience du Sénégal est une expérience quand même assez heureuse, parce que le Sénégal, avec son organisation en chefferie traditionnelle et religieuse, fait que souvent, ceux qui dirigent les mosquées ont une appartenance, soit confrérique ou une appartenance à des associations bien organisées, reconnues par l'État et avec... qui l'État entretient de bonnes relations. On a mis en avant la communication entre les autorités temporelles et les autorités spirituelles, entre le religieux et l'État. On a une certaine harmonie dans le dialogue, dans les échanges, et ce qui permet à tout un chacun de se sentir responsable du vécu et du devenir du pays.
Le ministre en charge des questions religieuses a pris l'engagement ferme de vite traduire en actes concrets les conclusions de ces 3 jours de réflexion. Mohamed Bazoum, ministre de l'Intérieur.
Dans le tout prochain jour, Inch'Allah, les services compétents de mon département seront instruits pour élaborer dans les plus brefs délais une feuille de route de mise en œuvre de ces recommandations pour que tous les acteurs concernés par la question religieuse soient mis à contribution.
Pour Mustapha Hamadou, prédicateur nigérien et participant au forum, les autorités ont même tardé à penser à cette question.
Aujourd'hui, j'ai comme l'impression dans ce pays que l'islam, c'est la religion la plus facile à pénétrer, à entrer. Même si tu ne connais pas, tu peux prétendre faire la prêche. Or, il faut nécessairement réglementer les choses. C'est pourquoi je dis qu'il fallait les faire pas aujourd'hui. Parce que les mal a été déjà cautionné, mais alhamdulillah, mieux vaut tard que jamais.
Abdullah Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Bras de fer entre le pouvoir et l'opposition au Togo. Le président nigérien Muhammadu Buhari s'est dit inquiet de l'instabilité politique qui règne dans ce pays, alors que des milliers de manifestants sont encore descendus dans les rues de Lomé jeudi pour réclamer la démission du président togolais Faure Gnassingbé. Le point avec Solange Nyamulisa.
Le président Buhari a indiqué que l'instabilité au Togo aura des conséquences régionales et nous devrons payer le prix du développement lors d'une rencontre bilatérale avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara en marge du sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan. Le président nigérien a ajouté qu'il doit y avoir une solution à la crise. Les amis de l'opposition et des autorités doivent les encourager à prendre des mesures conjointes. Ils doivent regagner une confiance mutuelle. À Lomé, les marches ont eu lieu hier dans le calme pour la seconde journée consécutive après 3 mois de contestation populaire pour demander une limitation rétroactive du mandat présidentiel et la démission du président Faure Gnassingbé. Resté silencieux pendant des mois, M. Gnassingbé a fait savoir la semaine dernière qu'un dialogue avec l'opposition devrait avoir lieu d'ici à quelques semaines.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a dévoilé son gouvernement où il recycle la vieille garde au pouvoir depuis 1980 et confie des postes clés aux militaires qui l'ont aidé à accéder à la présidence. Aucun membre de l'opposition ne figure dans le premier gouvernement du président Mnangagwa. Ancien bras droit de Robert Mugabe qui a démissionné de la présidence le 21 novembre sous la pression de l'armée, de la population et de son propre parti, la ZANU-PF. Le général Sibu Sisso Moyo, qui avait annoncé en pleine nuit à la télévision à la mi-novembre le coup de force militaire, obtient le ministère des Affaires étrangères. Le général Perence Shiri, chef de l'armée de l'air, hérite du portefeuille de l'agriculture, un ministère clé dans un pays où l'économie agricole est en mauvais état. Quant au chef de l'association des anciens combattants, Chris Mutsvangwa, qui avait mobilisé la population contre le régime Mugabe, il décroche le ministère de l'information. Patrick Chinamasa, lui, retrouve le ministère des Finances qu'il avait perdu en octobre lors d'un remaniement ministériel. Par ailleurs, retour du FMI, le Fonds monétaire international au Zimbabwe, suite à la chute de l'ex-président Robert Mugabe. L'institution financière internationale promet d'envoyer sur place début décembre une équipe pour apprécier la situation. Des précisions avec Eddie Sango.
Il s'agira, selon le porte-parole du FMI, d'une visite ordinaire. Elle intervient une semaine après la chute de Robert Mugabe qui a laissé le pays dans une crise économique profonde. Le FMI est prêt à soutenir les nouvelles autorités zimbabwéennes dans leurs efforts pour s'attaquer au déficit budgétaire, mettre en place les réformes structurelles dont le pays a besoin, a déclaré Jerry Rice. Les porte-parole du FMI reconnaissent que les Zimbabwe étaient confrontés à des défis dans un grand nombre de domaines pour restaurer la croissance et qu'il aura besoin d'un substantiel effort international pour sortir de son marasme économique. Emmerson Mnangagwa, le nouveau chef de l'État, a déclaré lors de son investiture faire de la relance économique son cheval de bataille. Il veut créer des emplois et favoriser les retours des investissements étrangers dans son pays qui a été longtemps cible des sanctions. Il a donné 3 mois aux entreprises et aux particuliers pour rapatrier tous les capitaux illégalement sortis du pays.
Crise migratoire, il faut que les jeunes Africains restent et réussissent en Afrique. Tel est le message commun lancé par le président ghanéen Nana Akufo-Addo et son homologue français Emmanuel Macron, qui a terminé jeudi au Ghana sa tournée africaine. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Nous devons nous développer nous-mêmes, convaincre la jeunesse que les opportunités sont ici, chez nous. C'est le manque d'opportunités qui pousse les gens à partir, a déclaré le président Nana Akufo-Addo. Pour sa part, le président Emmanuel Macron a soutenu que l'Europe peut accueillir la jeunesse africaine si sa circulation est organisée, ajoutant que la plupart des migrants qui sont en Libye payent des passeurs sans scrupules. Comme en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, le président français a souhaité nouer des partenariats dans l'éducation pour développer des diplômes conjoints entre universités ou grandes écoles françaises et africaines. Il a aussi promis que son pays soutiendra la formation des enseignants ghanéens pour multiplier les classes bilingues français-anglais. Le président Macron dit vouloir ainsi encourager la francophonie en mettant l'accent sur une francophonie conquérante. Cette visite de M. Macron est la toute première effectuée par un président français au Ghana.
Et pour terminer, actualité aux États-Unis, le Congrès américain devrait voter une loi de financement temporaire pour éviter une paralysie de l'administration fédérale. C'est Paul Ryan, le président républicain de la Chambre des représentants, qui l'a annoncé. Abdourahmane Dia.
Paul Ryan, lors d'une conférence de presse hier au Capitole, a assuré qu'une résolution de court terme est nécessaire pour garder l'État ouvert pendant que les négociations continuent. Le gouvernement fédéral ne peut légalement fonctionner que si le Congrès, qui tient les cordons de la bourse, vote son budget. Cette loi de financement temporaire, nommée « Continuing Resolution » dans le jargon parlementaire, doit être adoptée par la Chambre et le Sénat avant le 8 décembre prochain. La majorité républicaine et l'opposition démocrate sont engagées dans un bras de fer. Les démocrates minoritaires ont néanmoins un pouvoir d'obstruction au Sénat. L'un des points de discorde porte sur les illégaux arrivés jeunes avec leurs parents aux États-Unis, surnommés les « Dreamers ». Donald Trump a abrogé un programme de Barack Obama leur donnant des papiers temporaires et sans vote du Congrès, ils sont menacés d'expulsion à partir de mars prochain.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.